Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous, et je vous présente au micro Stéphanie Pérez, bonjour.
Bonjour.
Donc vous avez été l'invitée hier au Sémaphore pour une double soirée, en fait entre les écrans britanniques pour présenter le film Lee Miller, et pour le Club de la Presse pour votre carrière, votre métier de reporter. Et la salle 6 était pleine. Ça vous impressionne pas? Vous avez l'habitude?
Oui, j'ai un peu l'habitude, mais c'est toujours agréable de voir une salle de cinéma remplie
pour un,
voilà, pour un film qui est consacré à Lee Miller, qui est, c'est un très beau portrait de femme engagée. Donc je trouve que c'est à la fois bon pour le cinéma, c'est bon pour la réflexion, et puis c'est vrai qu'on a eu un débat très, très constructif.
Il faut dire que votre vie prête à beaucoup de questions. Je vous présente donc comme reporter, mais vous êtes aussi écrivaine, vous préférez le féminin?
Non, alors j'aime pas trop la féminisation systématique.
Bon. Alors je pose la question parce que, donc écrivain,
ouais. Écrivain, auteur,
voilà. Vous avez écrit deux livres en relation avec votre métier, Le gardien de Téhéran, et puis là, hier, vous en avez dédicacé beaucoup, donc ça prouve que l'Ukraine est au, comment dire, au cœur de nos réflexions, La ballerine de Kiev, et je suppose qu'il y a tout un univers, la ballerine d'art, de la danse, et on sait que le peuple ukrainien est très attaché à la musique, à la danse, à l'art, que actuellement beaucoup d'hommes politiques pensent que la culture, c'est un peu secondaire, mais votre livre, le cinéma, prouve que c'est pas vrai. Hein.
Oui, de toute façon, moi, c'est, je pense, le point commun entre mes deux livres, entre Le gardien de Téhéran et La ballerine de Kiev, c'est que l'art sert toujours de consolation. Mmh. Que même quand, même si on est dans les temps les plus obscurs, même si tout autour, en Iran, tout se voile de noir, ou en Ukraine, le fracas des bombes, malgré tout, il y a toujours un petit peu de lumière quelque part, et cette lumière, c'est souvent l'art qui l'apporte, que ça soit la peinture pour Le gardien de Téhéran, ou la danse, la musique pour La ballerine de Kiev. Et c'est vrai que moi, j'aime bien raconter des histoires où quand même, il y a un petit peu d'espoir.
Une petite lueur.
Une petite lueur.
Ouais, ne pas désespérer, et c'est vrai que la musique... Et on voit dans toutes les guerres hein, combien... Moi, ça m'avait beaucoup marqué pendant les camps de concentration, ces déportés qui construisaient des instruments, qui arrivaient à vivre par les poèmes qu'ils se récitaient. Et donc, c'est...
L'art reste un refuge.
Un refuge.
Une petite bulle qui permet de se préserver, voilà, un petit peu, quelques minutes, quelques heures... Mais voilà, une petite bulle qui permet d'échapper au fracas tout autour.
Alors, pendant votre métier, vous êtes confrontée à ce fracas. J'ai envie de vous demander d'abord comment on devient reporter? Quelles études on fait? Quel déclic? Quel hasard? Quelle rencontre
Alors, moi, ce n'est pas un hasard, parce que c'est vraiment... Je pense que, sans être pompeuse, je peux dire que c'est une vocation. J'ai toujours voulu être journaliste et ça a commencé, j'avais 12 ans, je venais de faire ma communion et on m'avait offert pour ma communion un poste de radio. Et alors moi je suis originaire de la région centre, c'est une région où il se passait pas grand chose, je m'ennuyais un peu. Donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre toute seule à écouter la radio et à écouter les informations. Et en fait, je crois que j'ai eu le déclic. Alors, les plus jeunes ne s'en rappelleront, ne connaissent pas ce moment, mais j'ai eu le déclic au moment de la mort de Daniel Balavoine et Thierry Sabine sur le Paris-Dakar.
Dans leur accident.
Voilà, dans un accident d'hélicoptère, 1986. Et la même année, Coluche est mort, accident de voiture. Et à chaque fois, j'étais dans ma chambre, j'écoutais la radio. Et j'écoutais Europe 1 et ils interrompaient les programmes et parce qu'il y avait un flash, une actualité urgente. Et en fait, ce moment de l'interruption des programmes, de la gravité de l'information m'a happée. Et en fait, j'ai eu depuis ces jours-là, l'envie de vivre ce moment, d'être celle qui rapporte
d'être
ce
le témoin,
moment,
mais
voilà,
aussi
où ça bascule.
Qui transmet,
voilà, celle qui transmet cette information qui mérite qu'on suspende tous les programmes. Et c'est pour ça que voilà, j'ai mené les études qui m'ont conduite à mon poste aujourd'hui, c'est-à-dire que après le bac, j'ai d'abord étudié les langues, les langues étrangères.
Oui, c'est nécessaire.
Parce que c'est nécessaire. Mmh. Et puis après, je suis allée faire une école de journalisme à Bordeaux. Et puis ensuite, je suis rentrée à France Télévisions par le biais des stages. D'où l'importance.
Des stages.
Ça, c'est un message spécial pour les jeunes, mais d'où l'importance de bien choisir son stage.
Et donc, journaliste écrit, journaliste de radio, journaliste de télévision, pour vous, c'est un tout. Pour vous, c'était indissociable.
Non, moi, je voulais. Alors, au départ, quand j'ai décidé d'être journaliste, je pensais à la presse écrite, parce que je ne pensais pas trop au journalisme télé. C'était pas moi, je ne regardais pas trop la télé. Et en fait, j'ai eu la révélation de la télévision lors de mes études. Je me suis rendu compte que c'est un exercice qui me plaisait. D'abord parce que c'est un travail immédiat, l'image est immédiate, on peut l'envoyer assez rapidement. J'aime beaucoup le travail de la voix et j'aimais bien l'idée de poser ma voix sur des images. Et puis ensuite, c'est un travail d'équipe et moi j'aime bien travailler en équipe.
Oui,
quand je vois mes collègues de la presse écrite tout seuls sur les terrains, je me dis que j'aurais pas pu le faire.
Oui. Le travail d'équipe, ça c'est important. Et quand est-ce que vous êtes spécialisé, c'est pas vraiment spécialisé, au niveau de la guerre maintenant, parce que là, au niveau de l'Iran, au niveau de l'Ukraine, c'est quand même des terrains très difficiles, très dangereux. Très éprouvant, je pense, moralement. Donc l'équipe, elle est là aussi pour vous conforter, vous...
Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours eu cet objectif d'aller sur les terrains difficiles, mais j'ai eu un parcours assez classique, c'est-à-dire que j'ai gravi les échelons, j'ai commencé par faire des reportages en région, à France 3, en région. Après, je suis montée à Paris, comme on dit. Donc,
Bordeaux, Paris.
Voilà. Donc, j'ai travaillé à la rédaction nationale de France 3, donc pour le 19-20 et le Soir 3 national à l'époque. Après, je suis passée à France 2. Et puis, donc, j'ai fait des reportages en Europe. Après, j'ai commencé à aller aux États-Unis. Et puis, une fois que j'avais l'expérience, mes chefs ont jugé qu'il était temps que j'aille me frotter sur des terrains un peu plus difficiles. Et moi, j'ai toujours été très volontaire.
Vous étiez prête.
Ah, moi, j'étais prête. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment gravi les échelons à mon rythme. Il y a des jeunes journalistes qui vont beaucoup plus vite.
Ils veulent aller trop
vite. Alors, ils veulent, ou on les laisse aller trop vite, ou peut-être que c'est pas trop vite, ça dépend du parcours de chacun.
Mais en tout cas. Ça dépend du mental aussi de la personne.
Oui, voilà. Et puis des opportunités. C'est vrai que moi, j'ai pas forcément eu les opportunités très tôt. Mais je pense que ça me permet aussi d'être la journaliste que je suis aujourd'hui, d'arriver sur ce terrain-là avec ma maturité, mon expérience, mon recul. Et je pense qu'en tous les cas, en ce qui me concerne, c'était la bonne recette.
Et l'écriture, elle est venue quand ?
Et l'écriture, alors ça, c'est pareil. Ça, c'était mon deuxième rêve quand j'étais petite. C'était d'être écrivain. J'adorais les livres. J'ai lu très, très tôt. Je lisais très vite.
Mais ça va de pair, je pense, avec l'information, l'actualité.
Et voilà. Et l'écriture. Et en fait, le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas assez d'imagination. Donc, écrire des livres sans imagination, c'est compliqué.
Il vous faut un terreau de la réalité.
Voilà. Et en fait, c'est pour ça que j'ai longtemps mis ce rêve de côté. J'écrivais mes reportages, donc déjà, je pouvais manipuler les mots, c'était déjà un acquis. Mais j'avais toujours ce petit manque au fond de moi, et j'ai l'impression que je ne serais pas complètement accomplie si j'écrivais pas. Et il se trouve que il faut se donner la liberté de le faire, et puis il faut trouver le sujet. Et le sujet, en fait, je l'ai rencontré en Iran. Les deux passions se sont rejointes. Et donc, j'ai rencontré le gardien de ce musée d'art contemporain à Téhéran. J'ai découvert son histoire fantastique, puisqu'il a sauvé des œuvres de la destruction. Et là, je me suis dit, ben voilà, ça y est,
voilà,
je
l'ai sujet.
Je l'ai face à moi, mon héros, mon sujet. Donc, je me suis accordé la liberté d'écrire son histoire et j'ai eu la chance qu'elle soit publiée. J'ai
avec
eu la
son
chance
accord,
qu'elle fonctionne.
Avec son accord.
Oui, tout à fait. Oui. Au départ, je voulais faire mon travail de journaliste, c'est-à-dire que je voulais écrire son histoire, sa biographie, mais un document journalistique.
Mais ce qui l'a sauvé.
Voilà, mais en fait, le problème, c'est que l'Iran est un pays où la parole n'est pas libre, on le sait. Et en fait, lui avait très peur de me dire des choses qui lui échapperaient, qui pourraient être mal interprétées, et donc qui pourraient lui porter préjudice. Donc, il m'a parlé, mais il n'a pas trop voulu m'en dire. Et comme j'avais des trous dans l'histoire, eh ben, j'ai décidé de les inventer, en fait. Voilà. Et c'était aussi une façon de le préserver. Comme ça, je précise d'entrée que c'est une fiction inspirée de faits réels. Moi, j'ai la liberté, comme ça, d'écrire. Et lui, il est protégé. Et en même temps, il est très content. Et maintenant, pour la petite histoire, on est amis sur Instagram. Alors, je ne parle pas farsi, il ne parle pas anglais. Mais dès qu'il publie quelque chose, je like. Et dès que je publie quelque chose, il like. Donc, on est en contact. Et bien sûr, dès qu'il voit la couverture du
livre,
et que je la poste, alors là, il like. Et il reposte la couverture. Donc, on a cet échange.
Mais ça fait plaisir.
Assez sympathique.
Parce que c'est pas qu'un moment. En fait.
Non, voilà, c'est une relation particulière.
Et donc, l'imagination, vous l'avez trouvée, là.
Voilà, je l'ai trouvé l'imagination, mais voilà, dans un support, dans un contexte historique qui me fait une base assez solide sur laquelle m'appuyer, et du coup, je peux aussi faire mon travail de journaliste, c'est-à-dire me documenter, faire en sorte d'être vraiment rigoureuse sur la réalité historique, bien sur sûr. Les faits, les dates, la cohérence, parce que ça, c'est mon exigence.
Donc, vous arrivez vraiment à cumuler vos passions dans vos activités. Et quel souvenir, en dehors de ce gardien de Téhéran, quel souvenir ou quelle réalité vous avez actuellement de l'Iran ?
Alors, l'Iran, là, moi, je n'y suis pas retournée depuis maintenant 3 ans. Bah, depuis le début de la guerre en Ukraine, je ne suis pas retournée. J'ai pas eu l'occasion de retourner en Iran. Et pour les journalistes, c'est très compliqué de travailler en Iran en ce moment parce qu'il y a la diplomatie des otages, comme on dit. C'est-à-dire que moi, journaliste, si je me rends sur place, je peux tout à fait être arrêtée sous un faux prétexte. Parce que les relations sont compliquées entre la France et l'Iran. Donc malheureusement, pour l'instant, moi, j'ai suspendu mes voyages. Mais je suis toujours en contact avec... j'ai une très bonne amie là-bas avec qui je suis en contact régulier, qui me tient au courant de l'évolution du pays. Forcément, je suis les informations. Je regarde les films iraniens parce que c'est un pays qui me tient à cœur et le combat des femmes me tient à cœur forcément. Et déjà, même si ce sont des petits pas, elles ont quand même gagné. Elles ont quand même gagné le droit de... Elles ont imposé le droit de ne plus porter le voile si elles le veulent. Et ça, c'est déjà une victoire qui est énorme.
Vous avez passé combien de temps tout en Iran ?
J'y suis allée une quinzaine de fois. Alors, c'est 15 fois une semaine, hein, mais suffisamment pour, du coup, bien connaître, connaître les principales villes du pays. Et puis, j'ai rencontré toutes les catégories sociales. J'ai rencontré les commerçants, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré les religieux, j'ai rencontré les politiques. Donc j'ai une vision assez large.
En équipe, ça veut dire avec combien de personnes ?
Alors, je pars soit à 2, soit à 3. Soit avec seulement le caméraman ou la caméra-woman. JRI, comme on dit, nous, journalistes reporters d'images. Et puis, en fonction de l'urgence de la situation, avec un monteur ou pas de monteur. Soit je monte le sujet sur place et on diffuse depuis l'Iran, soit je reviens à Paris avec mes sujets et je les monte à Paris.
Oui, vous n'avez pas de sujet imposé au départ, en fait. C'est en fonction de ce que vous avez glané, je dirais, ou en fonction de l'actualité.
Tout à fait, c'est un peu des deux. Parfois, on part quand même, enfin souvent, on part quand même avec une ou deux idées pour ne pas perdre trop de temps à l'arrivée. Mais voilà, le terrain impose souvent sa loi et souvent des idées nous apparaissent assez évidentes une fois qu'on est sur place, ce qui est logique, parce que c'est pas depuis Paris que je peux décider de ce qu'on va trouver.
Il faut improviser, entre guillemets,
voilà,
s'adapter.
Voilà, tout à fait, il faut s'adapter.
Et moralement, on en parlait en introduction, c'est un métier difficile, c'est un métier éprouvant ou... Comment vous vous protégez ? Comment vous...
Oui, c'est un métier qui est éprouvant parce que on se retrouve confronté à tout le malheur de l'humanité. Moi, j'ai vraiment vécu le début de la guerre en Ukraine. J'ai vu le monde s'effondrer sur les Ukrainiens. J'étais en Israël juste après le 7 octobre. J'ai vu l'horreur des kibbutz massacrés par le Hamas. J'étais en Syrie à la chute de Bachar el-Assad, j'ai vu les prisonniers sortir des prisons du régime et nous raconter les tortures qu'ils ont subies. Donc oui, il faut être solide moralement. Après, déjà la caméra sert de filtre, parce que moi je suis là pour travailler, envoyer des reportages, donc je dois penser à mon reportage.
Comme un filtre,
écran, voilà. Ouais. Et puis après, forcément, le soir, il y a des fois des petits moments difficiles, mais de l'avantage aussi d'être en équipe à ce moment-là, de pouvoir confier aujourd'hui ça a été dur.
Vous devez voir des choses terribles, hein, donc il faut, même s'il y a le filtre, l'écran, après,
oui, voilà, il faut,
la réalité,
il faut j'aime pas trop ce mot, mais il faut encaisser, comme on dit.
Ouais.
Donc, bon, moi, j'ai pas de honte à dire que je suis touchée ou que je suis ébranlée. Donc, j'en parle assez facilement. Et puis, nous, à France Télévisions, il y a la possibilité, si on veut, de consulter
d'avoir
un psychologue
soutien,
qui est à disposition quand on le souhaite.
Alors vous parliez de l'Ukraine et j'allais y venir pour votre deuxième livre, mais on comprend très bien que vous avez une activité multi, je ne sais plus comment finir. Donc nos auditeurs comprendront. L'Ukraine pour vous, ça a été tout de même quelque chose de, j'allais dire de pire, c'est bête, mais c'est plus proche. Hein, donc c'est dans notre civilisation. Et c'est après l'Ukraine, enfin après, ça fait 3 ans hein, qu'il y a la guerre, que vous avez décidé aussi d'écrire un livre, La ballerine de Kiev. Et je vous propose, pour faire un petit, c'est éprouvant, de faire une petite pause musicale, et ça s'impose, hein, Tchaïkovski, Le lac des cygnes, parce que La ballerine de Kiev, c'est l'opéra, c'est la danse, et Tchaïkovski, c'est la censure, bien évidemment, puisque russe. Il est interdit en Ukraine. Donc on est vraiment dans le sujet. Là. Thank you. Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Stéphanie Pérez qui nous fait le plaisir de nous expliquer un peu sa vie, son métier, ses émotions, ses sentiments, son talent d'écrivain. Hein, hier, il y a eu beaucoup de personnes qui ont acheté le livre, donc peut-être parce que vous étiez là, mais aussi parce que vous avez su provoquer, c'est le but tout de même d'un journaliste, hein, ça reste de l'émotion tout de même. Le journaliste, ce n'est pas que des faits, hein, c'est aussi de l'émotion. Vous êtes allée en Ukraine dès le début de la guerre ?
Oui, je suis allée. Alors déjà, j'étais allée en 2014. Déjà, moi, j'étais rentrée en Crimée ukrainienne et je suis repartie en Crimée russe. Donc, j'avais déjà commencé.
Je vous interromps, mais c'était passé un peu à la trappe, cette invasion de la Crimée.
C'est un conflit qu'on a très vite oublié, laissé tomber. C'est vrai que quand on proposait d'aller dans le Donbass en 2014, 2015, 2016, ça ne passionnait pas les rédactions. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent le terrain, on sait que ce conflit n'a pas commencé en février 2022, mais que ça remonte à 2014. Donc j'étais déjà allée plusieurs fois en 2014. Et donc, quand la guerre a commencé, j'ai tout de suite fait part de ma volonté de me rendre sur le terrain. Et j'y suis allée dans les premiers jours. Et j'y suis retournée une bonne quinzaine de fois. Ce sont des missions de 3 semaines qu'on faisait. Maintenant, on a un petit peu réduit, on fait 2 semaines, mais la moyenne, c'est 3 semaines. Et c'est sûr que moi, en tous les cas, dans ma carrière, ça restera des moments charnières, parce que déjà, c'est un conflit qu'on suit sur la durée.
On ne pensait pas que ça allait durer. Voilà, et c'est pas fini. Hein.
Voilà, nous, avec mes collègues, on y va chacun 3-4 fois par an. Donc, c'est un gros investissement personnel. C'est un gros investissement professionnel, donc forcément, humainement, ça marque. Moi, j'ai fait des rencontres très très fortes, j'ai vécu des moments très intenses. Et c'est vrai que assez logiquement, s'est imposé l'idée d'en faire un livre, parce que j'ai vécu, encore une fois, des moments assez inoubliables. Je sais ce que c'est que d'être dans un sous-sol avec des bombardements au-dessus de la tête.
Quand on entend ça aux actualités, tant de drones sont tombés sur la ville, bon, ça reste tout de même abstrait.
Et c'est des gens qui sont en sous-sol, qui ont peur. C'est des gens qui sont tués dans leur sommeil parce que la bombe a visé leur immeuble. Donc tout ça, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et il y a un moment, la question se pose à moi, qu'est-ce que je fais de tout ça ? C'est sûr que j'en fais des reportages, mais un reportage télévisé, ça dure 2 minutes, 3 minutes, les 5, quand on est généreux. Et je suis quand même tenue à un devoir de neutralité, ou en tous les cas, voilà, je ne peux pas trop me laisser déborder par... je ne peux pas trop me laisser déborder par mes émotions dans mes reportages, donc... L'endroit où je peux me laisser déborder par mes émotions et où je suis complètement libre, c'est face à mon ordinateur quand j'écris un roman. Et je pense que c'est devenu ma soupape, ma thérapie. Au début, quand j'ai commencé à écrire, je ne l'avais pas du tout analysé comme ça. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que, quelque part, oui, c'était ma thérapie à moi, de pouvoir poser tout ça par écrit et de me cacher derrière mes personnages, quelque part.
Le gardien de Téhéran, en fait, c'était votre premier livre et vous l'avez décidé après, en fait. Alors que là, la ballerine de Kiev, vous l'avez décidé tout de suite, en fait.
Oui, et puis je l'ai écrit pendant mes reportages, fait. Ouais. J'ai beaucoup écrit les soirs de couvre-feu, quand vous êtes à l'hôtel ou dans un appartement à 18h, que le reportage est diffusé, envoyé. Les soirées sont longues, j'écris. Voilà, et puis ça me permet aussi, je pense que les meilleures pages que j'ai écrites sont celles que j'ai écrites le soir, dans cette atmosphère, dans cet univers, après une journée dense, après des rencontres fortes. Et forcément, quand on couche à ce moment-là tout ça sur papier, c'est beaucoup plus puissant que si on est très loin.
Et la ballerine, vous le disiez au début, l'art, mais là, pourquoi la danse ?
Alors, en fait, curieusement, ce livre, il est d'abord né à Paris, à la fin de la première année de la guerre, puisque l'Opéra National d'Ukraine est venu en représentation à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, jouer Gisèle. Et comme je couvrais le conflit, j'avais pris des places en me disant, tiens, c'est curieux, les danseurs de l'Opéra de Kiev ont tourné en Europe, il y a quelque chose, ils peuvent. Et quand je les avais vus sur scène, j'avais été frappée. On sentait que c'était plus que de la danse.
Oui.
On sentait que c'était une histoire de résistance, de patriotisme. Mmh. Ils faisaient preuve d'un courage immense. Et à partir de là, je me rappelle, j'étais avec mon mari. Et je me suis penchée, je lui ai dit, ça y est, j'ai mon histoire. Et en fait, ce soir-là, sur scène, j'ai compris, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un très beau sujet romanesque, parce que ça me permettait de parler de la guerre, mais à travers le prisme de la danse, qui est aussi un univers qui est assez fascinant à explorer.
Et puis, ça permet une sorte de respiration, et de voilà. Transcendance, quoi.
Ça permet de parler de la guerre sans que ça soit un livre trop noir. Voilà, c'est pas qu'une histoire de tranchées. Moi, le livre, il se passe beaucoup sur la scène de l'opéra, dans les coulisses.
Vous étiez une passionnée de danse avant ?
Alors, j'aime beaucoup aller à l'opéra, j'aime beaucoup le ballet classique. Ouais, je suis
une grande fan. On parle toujours de conjonction.
Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça que moi, ça me permet aussi d'explorer cet univers-là que je connais pas forcément très très bien. Donc, c'était aussi assez chouette.
Alors, dans l'avenir. En fait, le prochain livre, ça sera lié à vos reportages.
Alors, le prochain, il sera lié, oui, à la Syrie.
À la Syrie, il est déjà en train
Il est dans ma tête, là. Il est en train de mûrir, mais voilà, il est en route. Il est en
Donc,
route.
J'allais dire qu'à la retraite, il faudrait que vous trouviez des sujets qui ne sont pas...
vous êtes très jeune, mais ça va arriver plus vite qu'on ne le pense.
Donc, se dire, voilà, il faudra tout de même que j'ai des sujets, mais vous avez une vie tellement... Enfin, vous avez une vie tellement active. Et j'allais conclure, je vous écouterai plus longtemps, mais voilà, on a un format d'émission. Est-ce que vous êtes souvent senti en danger ?
Oui, j'ai failli mourir plus d'une fois, en Ukraine notamment, en Syrie aussi une fois. Oui, je sais ce que c'est qu'un obus qui siffle dans vos oreilles très 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 près. Et je connais ce fragment de seconde où vous vous dites, bon, vous c'est fermez les yeux en vous disant, où est-ce que ça va tomber ? Est-ce que c'est pour nous ? Ou est-ce que ça va tomber loin ? Mais une fois que ça tombe à côté, on se relève et puis on se dit qu'il faut profiter de la vie.
Mais merci à vous, Stéphanie Pérez, et puis des reportages, des livres, la vie aussi, l'art, la musique. Merci à vous de nous avoir consacré du temps.
Merci. Avec les gens.